Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
Jean-Robert Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut, de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de géographie culturelle. Et dans votre dernier ouvrage intitulé « Une famille d'Europe », vous racontez l'errance, je crois que c'est bien le mot, l'errance de votre famille depuis le 18e sur le vieux continent. Et vous conjuguez vos passions, géographie culturelle, je viens de le dire, histoire avec un grand H, mais aussi gastronomie, œnologie, souvenirs de famille, émotions. Et vous nous plongez, nous les lecteurs, dans l'histoire-géographie, mais pas celle qu'on enseigne à l'école, parce que la vôtre est très proche du quotidien avec ses banalités, ses souffrances, ses petits bonheurs. Jean-Robert Picte, vous avez beaucoup écrit depuis 35 ans. Je constatais que vous avez écrit sur des sujets très variés. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce récit historique familial, à évoquer les destins ballottés et déchirés de vos ancêtres, ou la vérité est plus étrange que la fiction, faites-vous dire à Byron?
Ce qui m'a poussé à écrire ça, c'est le fait que dans une famille nombreuse et complexe, j'ai été pratiquement le seul à m'intéresser depuis très très longtemps, avant même d'avoir commencé les études d'histoire et de géographie, enfin de géographie et d'histoire, mais c'est pareil pour moi, enfin c'est pas pareil, mais c'est partie liée au destin de ma famille, de toutes les branches de ma famille, parce qu'il y avait en particulier une partie très intrigante qui était celle d'un grand-père, donc je porte le nom de ma grand-mère paternelle. Pitt est un nom normand, et le grand-père était un Hongrois, Oscar Réti, qui a quitté la France sans avoir connu son fils, sans s'être occupé de son fils, et qui en a été torturé toute sa vie. Et on a découvert, mes frères et moi, cette histoire au fur et à mesure de notre vie, de notre adolescence, parce que mon père n'aimait pas beaucoup parler de ça, et en même temps, il ne portait pas de jugement. Donc nous étions très intrigués, j'ai voulu en savoir plus, je suis allé en Hongrie à ce moment-là. C'est le moment où nous avons pu renouer avec cette branche de la famille. Et puis voilà, donc j'ai éprouvé une sorte de passion, comme beaucoup de gens, pour leur généalogie. Et ma formation d'historien et de géographe fait que j'ai essayé d'abord d'être le plus rigoureux possible, de ne pas romancer, parce qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de blancs. Il n'y a que dans les familles qui ont laissé une vraie trace dans l'histoire avec un grand H qu'on peut arriver à tout reconstituer. Et encore, mais dans des familles plus modestes, c'est plus difficile. Donc j'ai laissé les blancs tels qu'ils étaient et j'ai essayé de replacer ces bribes de vie que je retrouvais dans les archives familiales, dans des lettres, sur des photos, etc., de les replacer dans le contexte de la grande histoire et le mieux connu, et de voir tous ces destins ballottés, ces déplacements à travers la France, à travers l'Europe, en général pas très très volontaires. Beaucoup auraient préféré passer leur vie à l'endroit où ils étaient nés et n'ont pas pu. Pour plein de raisons qui tiennent beaucoup, malheureusement, aux guerres, aux frontières créées ici ou là sur le continent, qui ont interdit à beaucoup de nos ancêtres de vivre là où ils voulaient et comme ils voulaient.
Mais ça devait être d'autant plus compliqué, votre recherche, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des blancs, mais il y a aussi toute une pérégrination qu'il faut suivre caillou par caillou.
Oui, d'autant plus que ça remonte très loin, puisque la partie normande de la famille est d'origine viking, mais elle est arrivée il y a 1000 ans, et là, je n'ai pas de traces très, très précises, sauf dans mon nom, qui est un nom normand, et dans le pays de mes ancêtres normands, qui est le pays de Caux, où se sont implantés les Vikings il y a 1000 ans, un peu plus de 1000 ans. Et puis, la branche hongroise est une branche juive, dont la tradition veut qu'elle soit venue du Portugal. Donc, vous voyez, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Hongrie, au fil des siècles, elle arrive. Ce qui est certain, c'est qu'elle arrive en Hongrie au XVIIIe siècle, à une époque où il n'y a plus de juifs en Hongrie et où ils recommencent à prendre pied pour faire du commerce et à la demande du souverain.
Oui, alors ces souverains, ce sont souvent les empereurs l'empereur d'Autriche, et vous les avez bien évoqués. Vous avez évoqué Joseph II, qui avait donné un statut particulier, qui avait demandé à ce qu'ils aient un nom.
Oui, alors je ne suis pas sûr que les Juifs aient été enchantés d'avoir un nom germanique, mais enfin c'était obligatoire. Donc moi, mes ancêtres ont pris, ça se passait à l'automne, donc ils ont pris le nom de ce qu'ils voyaient en ouvrant leurs fenêtres, des arbres rouges, donc Rothbaum, voilà, ils se sont appelés Rothbaum, alors qu'ils devaient s'appeler auparavant uniquement de prénom, avec le nom de leur père, Ben quelque chose, comme ça se passe chez les Sémites. Et puis après, et ça c'est un épisode que je trouve passionnant, ils ont fait partie de, de ces très nombreux Juifs qui ont cherché à s'intégrer encore mieux dans les États où ils vivaient, et par conséquent, puisqu'ils vivaient en Hongrie, à se magyariser. Ils ont fait partie de ce mouvement de la Haskalah, où, par exemple, dans les synagogues, on parlait en hongrois, ou en allemand, mais pas
en
hébreu.
Mais pas en
yiddish ou en hébreu, enfin, sauf pour les prières. Et donc, ils ont fait partie de ce mouvement d'intégration par intellectuel politique à une nation, mais évidemment, à chaque fois, ils ont été déçus à plusieurs reprises au cours de l'histoire du 19e et du 20e siècle, lorsque l'antisémitisme a ressurgi. Et donc, mon grand-père a passé quelques mois, fort heureusement, il s'en est sorti, mais dans le ghetto de Budapest, dans des conditions effroyables, et bien d'autres de sa famille ou de ses amis, eux, ont disparu, puisque ça a été une des déportations les plus massives, tardives, mais très massive.
Oui, parce que la Hongrie a beaucoup souffert.
Oui, et puis se ressurgit toujours. Ma demi-tante, donc...
Tante Clara.
Tante Clara écrit en 1956, donc au moment de la révolution anti-russe, et elle écrit à mon père, puisqu'ils entretenaient une correspondance étroite, fournie, et j'entends dans les rues « mort aux Juifs ». C'est la seule fois où elle évoque cet aspect-là, puisque mon père, qui n'était pas qui ne se sentait pas juif
du tout. Oui, car il était chrétien.
Était catholique, pratiquant, et c'était une torture pour lui de savoir qu'il avait cette branche de sa famille qui était juive, et elle dit on entend mort aux Juifs dans les rues de Budapest, c'est effroyable, on a déjà entendu ça en 1945, mais on l'avait entendu aussi en 1919, on l'avait entendu à bien les reprises dans leur histoire, donc il y a toujours cette volonté de s'intégrer et de faire le mieux possible, enfin d'être les meilleurs citoyens possibles et de participer à la prospérité, à la vie de ce pays qu'est la Hongrie, et en même temps de se sentir rejeté par des gens qui eux-mêmes se sentent hongrois par la naissance, magyars par la naissance, mais qui parfois, c'est le cas au XIXe siècle, sont illettrés. Alors que mes ancêtres, eux, étaient cultivés, parlaient 7-8 langues, etc., étaient de vrais Européens, et en même temps profondément magyars et attachés à l'intégration.
C'est le problème des élites cultivées minoritaires.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a ça avec les chrétiens, les chrétiens d'Égypte ou du Proche-Orient.
Alors, pour parler aussi de religion, vous avez aussi parlé de religion et aussi de territoire, puisque vous parlez de l'Alsace. Car là aussi, il a fallu, après la guerre de 70, opter pour la France.
Alors ça, c'est une autre branche de la famille, du côté de ma mère, qui m'a toujours beaucoup fasciné, parce que ma mère, comme beaucoup de gens de sa génération, donc elle était née en 1909, a été élevée par sa grand-mère, parce que son père est mort à la Première Guerre mondiale. Donc je raconte aussi l'histoire de son père, bien sûr, qui est une autre histoire de toute petite bourgeoisie parisienne, mais la grand-mère de ma mère, et son grand-père aussi, étaient des Alsaciens optants. C'est-à-dire des Alsaciens qui, à 17 ou 18 ans, 16 ans même, 16 ans et 17 ans, ont décidé de quitter l'Alsace en 1871 pour rester français.
Français.
Et
ils ont
opté
à Paris pour la petite Alsace.
Très très jeunes, ils sont venus à Paris, comme beaucoup de plusieurs centaines de milliers sont venus à Paris. Puis après, ils ont émigré, certains sont partis en Algérie, etc. Mais ceux-là sont venus dans la petite Alsace, c'est-à-dire près de la gare de l'Est, puis après au Pré Saint-Gervais, où ils sont restés jusqu'à leur mort, et où ma grand-mère est née, où ma mère est née, et où moi j'ai passé toute mon enfance. Donc c'est quatre générations, mais avec quelque chose de très étonnant que je raconte, parce que au fond, c'est moi-même, enfin c'est ma propre culture, c'est dans cette espèce de mystique de l'Alsace d'avant 1870. Ça fait penser aussi un peu à ces Arméniens aujourd'hui, 3-4 générations après le génocide, et qui continuent à vivre dans la mystique de la Grande Arménie, dont une grande partie est aujourd'hui en Turquie. Et donc là, je raconte de tout petits faits, très menus, mais enfin, le fait d'aller faire ses courses, d'aller acheter sa choucroute à la gare de l'Est, était une espèce d'acte mystique pour ma mère, d'aller dans ce quartier où il y avait encore, dans les années 50, pas mal de gens qui parlaient avec un fort accent alsacien. C'était quelque chose de très important pour ma mère, qui se sentait profondément alsacienne, alors qu'elle y était allée 3 fois dans sa vie. Oui, donc c'est ça aussi que j'essaye de raconter, c'est que nous sommes tous fabriqués de ces identités multiples, emboîtées, parfois contradictoires, et donc mes arrière-grands-parents n'ont jamais oublié leur Alsace natale, n'ont jamais appris parfaitement le français, ils parlaient mal et avec un fort accent alsacien, et parlaient sans cesse de l'Alsace. Donc je me suis creusé un peu la mémoire, parce que je n'ai jamais connu cette arrière-grand-mère. J'ai pu raconter des petites anecdotes de la vie dans ce village alsacien situé près de Colmar, qui s'appelle Grüsenheim, des années 1850-60, des recettes de cuisine qu'elle avait transmises à sa fille, que ma mère nous a transmises. Et donc, c'est une histoire sur un siècle et demi de transmission d'une identité. Son mari, donc, qui était aussi un Alsacien, mais du nord de l'Alsace, de Wissembourg, qui était bourrelier, qui faisait des capotes de fiacre et des selles de chevaux, beaucoup, beaucoup de chevaux à l'époque dans Paris, était venu avec tous ses frères, avait opté avec tous ses frères, ils étaient, je crois, 8 frères, il y avait une fille, mais 8 frères sont partis, et lui était pourtant de père allemand. Son père était un badois, qui faisait le même métier que lui, il a eu 9 enfants, et tous sont partis, bien que de père allemand, tous sont partis pour la France au moment de l'option. Et lui-même avait 16 ans, et il a fallu une dispense pour qu'il puisse être émancipé et venir. C'est des histoires qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. On a parlé beaucoup de choses comme ça avec les Balkans, avec la Bosnie, etc. Mais on oublie cet exil volontaire pour des raisons purement culturelles, et parce que, principalement pour les garçons surtout, ils ne voulaient pas porter l'uniforme allemand. C'est ça surtout, c'était l'ennemi qui avait vaincu la France. Donc c'est-à-dire que même ces gens-là qui parlaient mal le français se sentaient profondément, profondément français. Donc je compare aussi cette histoire-là avec celle des ancêtres hongrois qui auraient voulu être hongrois mais on ne voulait pas qu'ils le soient, ou du moins c'était pas si facile que ça, et on les bloquait, il y avait des quotas dans les universités, etc. Et en même temps, certains d'entre eux, comme cet arrière-grand-père hongrois, ont pu vivre une histoire de méritocratie, accéder à l'académie, doyen d'université, etc. Et puis, ces Alsaciens, donc beaucoup, beaucoup plus modestes de milieu, ne pouvant pas vivre là où ils voulaient, ne pouvant pas vivre leur identité à la fois alsacienne et française en même temps, sauf en s'exilant. Et donc, ce sont ces drames, beaucoup d'autres histoires de ce genre, mais même ces migrations à travers la France, je raconte beaucoup de... qui sont des choses extrêmement classiques, hein, vers les grandes villes, où on quitte sa campagne pour aller vers la ville.
Vermont
vers Lyon pour aller à la Croix-Rousse, et puis après de la Croix-Rousse à Paris par mariage, d'un peu partout. Mon père, à 15 ans, quittant la Normandie pour venir à Paris, des choses comme ça qui sont dures à vivre, hein, et qui sont le lot commun de tous nos ancêtres. Aujourd'hui, finalement, les jeunes se plaignent beaucoup, mais leurs migrations sont souvent beaucoup plus volontaires, choisies, et même si c'est souvent difficile pour beaucoup de jeunes, il y a du chômage, etc., mais c'est sans doute moins difficile que ce qu'ont vécu les générations qui nous ont précédés. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, cette histoire familiale est traversée de 3 guerres dramatiques qui sont la guerre de 70, la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de décès dans la famille, comme chez tout le monde, comme dans toutes les familles françaises, la Seconde Guerre mondiale, dramatique aussi.
La guerre froide,
et puis n'oublions pas la guerre napoléonienne. J'ai un ancêtre qui a perdu 3 doigts dans une bataille avec les Allemands. Donc il y a toujours derrière tout ça une espèce de môle dont je ne sais pas grand-chose, enfin dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas la partie la plus aimée de l'Europe dans notre famille, qui est le mot l'allemand, qui vient toujours un peu gêner aux entournures la vie de cette famille par les différents conflits qui ont agité le continent européen.
Ce qui est très touchant dans votre père, c'est qu'on sent qu'il a beaucoup regretté de ne pas pouvoir faire d'études, parce qu'il ne pouvait pas, étant donné que la vie était difficile.
Oui, il a 4 ans et demi d'école.
Oui.
Chez les frères des écoles chrétiennes au Havre, et quand on voit la manière dont il écrivait, je reproduis beaucoup de lettres ou de poèmes de lui, la manière dont il écrivait après 4 ans et demi d'école, et les frères dont il avait reçu les enseignements avaient à l'époque 70 ou 80 ans, parce que tous les jeunes étaient partis à la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, mon père était né en 6, donc il a fait son primaire pendant la Première Guerre mondiale, et donc c'était des instituteurs, il y avait des classes pléthoriques, des instituteurs très très âgés, et pourtant il écrivait des alexandrins, et il faisait peu de fautes d'orthographe et de syntaxe.
Oui, vous avez de qui tenir, mais non, ce que
non,
je
non,
veux
mais
dire...
je trouve que ça l'a toujours passionné, donc,
mais bien sûr.
Et sans lire beaucoup de livres, il écrivait énormément. Donc
il y a un talent.
On pense toujours que c'est la lecture qui donne le talent, mais il y a aussi l'écriture, ça aide beaucoup aussi. Alors c'est sûr que si on lit et qu'on écrit, ça va encore mieux. Et mon père écrivait plus qu'il ne lisait.
Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, pour parler de la petite histoire et des bonheurs, c'est le patronage. Parce que le patronage, avec le côté mouvement chrétien, Oui. Ça a été une famille assez importante, famille d'adoption, on s'entend, hein, pour votre père.
Pour mon père, ça a été formidable. Le scoutisme et le patronage ont été des moments de grande joie pour lui au moment de son adolescence qui était difficile. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre paroissial, comme beaucoup de jeunes de cette génération, qu'il a rencontré ma mère et que, compte tenu de son histoire familiale un peu mouvementée, dont on ne parlait pas beaucoup parce que ça se faisait pas de dire qu'on était né d'une fille mère, etc. En plus, dans un milieu catholique, ça se dit pas. Donc, malgré ça, c'est dans ce milieu qu'il a rencontré ma mère et ce milieu les a beaucoup aidés. En particulier, le clergé, qu'on présente souvent de manière un peu caricaturale, clergé d'ancien régime, très attaché à une morale stricte, mais en même temps qui savait trouver, j'imagine, les mots pour accompagner des jeunes un peu perdus, quand même, il faut bien le reconnaître. Hein.
Mais bien sûr, parce que ce clergé-là aussi était en face des vérités de la vie et des vérités des conséquences de la guerre.
Oui, donc ils avaient une ouverture d'esprit
qu'on n'a peut-être pas encore,
oui,
nous.
Oui, donc ce qu'ils racontaient, leur morale, je reproduis le sermon de mariage de mes parents par le curé du Pré-Saint-Gervais, c'est bon, ça apparaît complètement hors du temps. Enfin, on se dit, mais ça a été écrit quand, ça? Non, ça a été écrit en 1934. Mais en même temps, c'était une sorte d'encadrement social qui n'était pas qu'une obligation mal vécue. C'était un encadrement social qui donne des limites, mais qui donne aussi un élan et un idéal. Voilà.
Oui.
Et ça, j'ai découvert ça parce que moi-même, c'est quelque chose qui... j'étais pas très, très sensible à ce type de discours. Et je me suis dit, mais au fond, voilà, s'ils n'avaient pas eu ça, je pense que leur vie aurait été beaucoup plus difficile.
Alors, avant qu'on conclue, je voulais simplement vous dire que j'ai aimé quand vous avez dit « on ne psychanalyse pas les moules à Kouglof ». Parlez-nous de ce moule à Kouglof, parce que c'est votre famille alsacienne, là.
Oui, bien sûr, c'est un des objets fétiches. J'essaye, je me suis dit, je suis sûrement un peu trop fétichiste, parce que je parle d'un certain nombre de tout petits objets qui sont des souvenirs, je pense, à la laine de bourrelier de mon arrière-grand-père que j'ai conservé, donc j'ai l'air de cette espèce de petit musée familial de 3 sous. Hein. C'est vraiment des choses qui n'ont aucune valeur, mais qui sentimentalement sont très importantes. Et je parle de cet objet qui est l'objet avec un grand O de la famille, qui est le moule à Kouglof en terre venant de Krusenheim et que mon arrière-grand-mère a rapporté donc en 1871 avec elle et dans lequel elle a fabriqué le Kouglof tout au long de sa vie et en transmettant la recette à sa fille et à sa petite-fille. Le moule a existé et a servi à cuire des Kouglof jusque dans les années 90 et puis un jour ma mère l'a cassé, mais peu importe, ce qui compte c'est ce que représente l'objet. Et je pense que ce moule, surtout compte tenu de sa forme, comme tous les moules à Kouglof, a joué le rôle du père un peu dans cette famille où les hommes disparaissaient vite et dans des circonstances difficiles. Donc il a joué le rôle du père pour mon arrière-grand-mère qui arrive à 17 ans dans cette grande ville difficile, le rôle du père pour ma mère qui a perdu le sien. Puis à un moment je dis bon, il ne faut pas que j'aille trop loin, donc arrêtons de psychanalyser le moule à Kouglof. Je lui fais dire des choses qui sont... Mais bon, voilà, il ne faut pas prendre ça, tout ça trop au sérieux.
Alors, pour conclure, vous avez donné le conseil ultime à vos électeurs. Vous dites « Interroger les archives familiales est une thérapie. Cela apporte de l'énergie pour prendre son destin en main et guide vos descendants. » C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ça. Et en fait, vous avez senti que c'était une énergie pour vous de pouvoir mettre tout ce puzzle en place et l'offrir à vos enfants et vos petits-enfants.
Oui, c'est une énergie... C'est une énergie pour moi. Je pense que ça remet les choses à leur place quant aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre propre vie aujourd'hui, parce qu'on a souvent quand même tous tendance à se plaindre, à trouver que la vie est trop dure et qu'on n'est pas trop gâté. Bon, quand on regarde un peu ce qu'ont vécu nos ancêtres, ils n'ont pas été beaucoup plus gâtés, plutôt moins. Ils vivaient moins longtemps, ils n'avaient pas de médicaments, etc. Et ils se contentaient souvent de petites joies. Donc je crois que ça veut dire aussi que nous aussi, il faut profiter des petites joies de la vie et de ce qui nous vient du ciel. Donc c'est plutôt un message d'espoir. Et puis je dis aussi que j'étais pas très 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 européen il y a quelques années parce que je trouvais que l'Europe était trop technocratique. J'étais pas protectionniste, mais je trouvais que vraiment le Bruxelles nous donnait trop de contraintes. Et puis en mettant tout ça en place dans ma tête et sur le papier, je me suis dit mais quand même, plus jamais, si l'Europe continue à vivre, à progresser et à améliorer ce qui ne va pas dans son fonctionnement, plus jamais on devrait vivre ce qu'ont vécu nos ancêtres.
Plus jamais de guerre en Europe.
Bah, plus jamais de guerre en Europe entre voisins. Et j'espère plus jamais de guerre avec d'autres non plus. Mais enfin, c'est quand même, voir ça rétrospectivement, ça donne vraiment envie d'Europe.
Merci beaucoup Jean-Robert Pitt.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu jusqu'à nous.